Radio Kapi. Oh, Kapi.
Fraude minière en RDC. Le président de l'Assemblée nationale dénonce et estime que cette situation est entretenue par certaines autorités congolaises dans le secteur. Ainsi, une commission parlementaire sera mise en place pour notamment auditer le cadastre minier, a annoncé hier Christophe Mbosson Kodiapuanga. Inhumation ce jeudi de Gabriel Kungwa Kumwanza, ancien président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Plusieurs personnalités lui ont rendu hommage à Lubumbashi, dont le président de la République, et c'est dans une intimité familiale qu'il a été conduit dans sa ferme Kiambi, sa dernière demeure. Et puis, la méningite a déjà tué 155 personnes sur 377 cas enregistrés à Banalia dans la Tchopo depuis juillet dernier. Et pour organiser la riposte contre cette maladie, une forte délégation de l'OMS s'est rendue à Banalia ce jeudi. Nous recevons à ce sujet le coordonnateur régional chargé de la lutte contre la méningite en Afrique au bureau régional de l'OMS basé à Brazzaville. Madame, Messieurs, bonsoir. L'Assemblée nationale s'engage à lutter contre la fraude minière et renflouer les caisses de l'État. Une commission parlementaire sera mise en place pour auditer le cadastre minier et évaluer sur terrain les dates d'acquisition et d'expiration des titres, ainsi que les droits revenant à l'État. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Assemblée nationale hier, à l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Christophe Mbosso parle d'une situation désastreuse dans le secteur minier congolais. Il dénonce qu'en dépit de la récente réforme minière, plus de 17% de la superficie de la RDC sont exploités avec des permis de recherche et sans payer à la RDC. Seuls 2% de la superficie totale du pays sont valablement exploités avec des permis. Explication Michel Kifindangoy.
Révolté par ce qu'il qualifie de fraude minière à grande échelle, le président de l'Assemblée nationale estime que cette situation est entretenue. Christophe Mbosso.
Comment comprendre qu'au détriment des intérêts de notre pays, un grand nombre de ces permis bénéficient injustement et de manière frauduleuse, parfois avec des complicités de l'administration, du statut de force majeure. Avec ces statuts, les détenteurs de titres miniers organisent le non-paiement de la taxe de superficie sur les concessions minières. Beaucoup de ces titres sont à ce jour expirés, mais continuent à bénéficier aux anciens titulaires.
Christophe Mbosso invite donc le gouvernement à régulariser les statuts des titres miniers afin d'octroyer aux nouveaux investisseurs tous les titres déjà expirés.
Eu égard à cette situation qui frise la fraude, une commission d'enquête chargée d'auditer les cadastres miniers, d'évaluer les dates d'expiration des titres miniers, ainsi que les droits revenant à l'État, sera mis en place.
L'enquête parlementaire vise à canaliser toutes les dividendes des ressources minières congolaises dans les trésors publics, souligne le président de l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, le Premier ministre Samalou Kondé a déposé hier à l'Assemblée nationale le projet de budget 2022. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a réceptionné d'une hauteur de 20 682,6 milliards de francs congolais, soit environ 10,3 milliards de dollars. Ce projet de budget présente un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021. Dans cet extrait que nous propose Billy Vandutumba, Jean-Michel Samalou Kondé parle des prix priorité que s'assigne son gouvernement à travers ce projet de budget.
La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. C'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Les priorités sont restées les mêmes et dictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec comme priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens sous l'impulsion, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Entre-temps, au Congo central, le ministre des Finances, Pierre Kabangu Nsalambi, est désormais dans le viseur du procureur près la Cour de cassation. Son nom a été ajouté sur la liste de 4 autres proches de l'ex-gouverneur Atumatubwana dans l'affaire de détournement des deniers publics. Dans le réquisitoire envoyé mardi au bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, Victor Mumba Mukomo, procureur général près la Cour de cassation, invite l'organe législatif provincial à autoriser l'instruction à charge de Pierre Kabangu, des précisions avec Nana Plurish Mambou.
Dans ses réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, dont une copie est parvenue à Radio Okapi, Victor Mumba Mukomo dit avoir reçu de l'IGF des copies du rapport de contrôle effectué par les inspecteurs des finances au gouvernorat du Congo central et des procès-verbaux d'audition des 4 autres co-accusés de l'ex-gouverneur Atumatubwana. Dans ces documents, il résulte des pièces du dossier qui, pendant la période allant du 1er janvier 2019 au mois de juin 2021, le ministre provincial Pierre Kabangu Nsalambi, ordonnateur des recettes et des dépenses de la province, s'est érigé en comptable public des fêtes en touchant auprès du comptable Willy Mafouane à la somme globale d'1,972,540,000 francs congolais au motif des frais secrets des recherches. Et aucune pièce justificative quant aux dépenses irrelatives n'a été produite par l'intéressé. La même source estime qu'en rapport avec les droits, les faits sont constitutifs de l'infraction de coréité de détournement des deniers publics punissable par l'article 21 et 23 du Code pénal. La nature de ces faits et la gravité des indices relevés des pièces du dossier requièrent que l'inculpé Pierre Kabangu soit entendu pour donner sa version des faits, poursuit ses réquisitoires. Par conséquent, le procureur général près la Cour de cassation invite l'Assemblée provinciale du Congo central à autoriser l'instruction à charge de Pierre Kabangu Nsalambi, ainsi lui permettre de présenter ses moyens de défense. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu. La RTNC Bukavu ne pourra pas émettre avant une semaine minimum, selon le directeur provincial de ce média public. C'est une des conséquences de l'incendie qui a ravagé l'hôtel de la Poste à Bukavu dans la nuit de mardi à hier mercredi. En effet, la station provinciale de la RTNC avait ses bureaux dans ce bâtiment. Patrick Kyungu Silimu, directeur provincial de la RTNC Sud Kivu, précise qu'il faudra des gros moyens pour émettre rapidement la chaîne en onde. Il explique au micro de Cynthia.
Que ce soit la basse fréquence, la haute fréquence, tout est parti en fumée. La rédaction centrale, il n'y a plus rien. Même les matériels de reportage, les dictaphones, les laptops, des armoires, meubles, parti en fumée. Vous-même, vous êtes en train de voir de l'autre côté, c'est là où nous installions nos émetteurs, c'est parti en fumée. Donc, pour le moment, en tout cas, nous sommes réduits au silence. C'est un instrument de l'État. Vraiment, j'espère, le gouverneur venait de nous visiter. Nous attendons si, au niveau provincial, on peut faire quelque chose. Mais je suis toujours en contact avec la hiérarchie à Kinshasa, que ce soit les DG, même notre ministre de tutelle. J'espère que dans 3 jours, nous allons accueillir une délégation qui viendra se faire l'évaluation pour voir comment nous on peut reprendre. Mais sinon, il faut les moyens pour reprendre.
Donc, on est parti pour une semaine sans la RTNC à Bukavu, une semaine minimum.
J'ai déjà consulté mon équipe technique dans au moins une semaine. On peut se battre si on réunit un peu de moyens, mais vous voyez vous-même les bâtiments ici. Déjà, c'est un bâtiment sinistré. Il faut d'abord chercher là où nous devons nous installer pour qu'on commence à émettre. Voilà pourquoi je donne cette marge de plus ou moins une semaine.
Je vous le disais en titre, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza a été inhumé ce jeudi dans sa ferme à Lubumbashi. Le président de la République qui a fait le déplacement de la ville cuprifère pour la circonstance lui a aussi rendu ses hommages. À cette cérémonie, plusieurs témoignages ont été rendus au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga vantant ses qualités d'homme d'État. Reportage signé Jean Gandou Kabongo.
Le corps d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza a été exposé à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est là que les différentes personnalités, dont le chef de l'État, lui ont rendu hommage en déposant leur jarre des fleurs devant son cercueil recouvert du drapeau national. Bien avant, plusieurs personnes ont témoigné de son combat. C'est notamment l'association socioculturelle Ibuluba Ibukata, la fondation katangaise qui réunit toutes les associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga, le comité de gestion de la SNCC dont il fut le président du conseil d'administration, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, a dans son homélie appelé l'assistance à perpétuer le combat de l'illustre disparu pour l'avènement d'un monde juste. Pendant ce temps, des centaines de personnes, drapeaux de leur parti politique à la main, étaient amassées dans les encablures du lieu de la cérémonie pour suivre toutes les péripéties, et cela sous une forte surveillance des forces de l'ordre et de sécurité. Après cette messe d'action de grâce et dans l'intimité familiale qu'il a été conduit dans sa ferme de Kiambi, où il va reposer désormais pour l'éternité. Notons qu'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza est mort le 21 août dernier des suites d'une maladie à Luanda en Angola. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Province du Kasaï, le mouvement des Congolais en provenance de l'Angola s'intensifie vers la frontière de Kamako dans le territoire de Tchikapa. Le dernier rapport du service de l'hygiène aux frontières parle de plus de 5000 personnes retournées face aux conditions dans lesquelles vivent ses compatriotes. L'administrateur du territoire de Tchikapa indique avoir déjà alerté sa hiérarchie pour une solution. François Kadima nous raconte.
Ce retour massif de Congolais qui quittent l'Angola a commencé depuis le 6 septembre. Il s'est fait à la suite de l'ultimatum lancé par les autorités angolaises demandant aux étrangers de retourner dans leur pays. Sur plus de 5000 retournés enregistrés à ce jour, l'on enregistre des femmes et surtout des enfants non accompagnés. Les responsables des services de l'hygiène aux frontières à Kamako indiquent avoir alerté à plusieurs reprises les autorités congolaises sur les mauvaises conditions de ses compatriotes. Christian Mabedi.
Nous avons alerté, mais jusque-là, aucune assistance, ni les autorités, ni le gouvernement de notre province, ni le gouvernement central, ni même communauté humanitaire. Aucune situation n'est résolue.
Nous avons contacté l'administrateur des territoires de Tchikapa par rapport à cette situation. Voici brièvement la réponse de la Tekuzo.
Jusque-là, on a remonté les informations à la hiérarchie, on attend leur intervention.
Entre-temps, les services de l'hygiène aux frontières renseignent qu'en Angola, en dehors de Lunda Norte, ceux qui sont dans les territoires de Lukapa et d'autres zones et cités angolaises seront également expulsés. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Parlant justement des expulsés de l'Angola, sachez qu'au Kasaï oriental, 32 ménages de ces expulsés ont reçu chacun 200 000 francs congolais mercredi soir comme frais de réinsertion sociale. C'est après leur sit-in d'une semaine devant le gouvernorat de province. La remise de ces fonds a été effectuée par le maire de Mbujimayi et le chef de division provinciale des affaires sociales. Depuis leur arrivée à Mbujimayi il y a plus de 9 mois maintenant, ces expulsés de l'Angola ont fait deux fois le sit-in devant le gouvernorat du Kasaï oriental pour exiger une prise en charge du gouvernement provincial. 8 morts et plusieurs maisons incendiées, bilan dressé par des sources de la société civile concernant l'attaque menée la nuit dernière par des présumés ADF à Mutendero dans la chefferie des Bachou. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres à l'est de Butembo dans le Nord Kivu. Les mêmes sources indiquent que parmi les victimes, il y a un chef coutumier. Plus de détails avec Florida Kahambu.
À en croire des sources de la société civile, c'est autour de 22h qu'une présence d'hommes armés a été signalée au pied de la colline de Mutendero, siège coutumier du clan Basukali. Ces personnes armées, que des témoins présentent comme des rebelles ADF, auraient ensuite lancé une attaque tuant 8 personnes, dont Katembo Kamali, gardien des coutumes. Toujours d'après les mêmes sources, les assaillants ont ensuite escendillé plusieurs maisons. Radio Kapi a tenté en vain d'avoir au téléphone le chef de la chefferie, Mwami Abdoul Kalemire III. Mais le secrétaire de la chefferie de Bachou, Missisa Moussabaye, confirme les informations de la société civile. La même source indique que cette situation a occasionné un déplacement des habitants de la zone. D'après Missisa Moussabaye, le gardien des coutumes tué devait se rendre aujourd'hui au siège coutumier dans le cadre de ses fonctions. La veille de cette attaque, les notables de la chefferie de Bachou avait invité la population à observer deux journées sans activité pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone. Tous nos efforts pour avoir la réaction du porte-parole des opérations Sukola 1, le capitaine Anthony Mwalushai, n'ont pas abouti. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, la société civile demande au gouvernement de renforcer l'effectif des militaires déployés au front et de les doter des moyens logistiques conséquents afin de mieux combattre les groupes armés. Cette organisation citoyenne a fait cette recommandation lors d'un point de presse organisé hier à Bunia. Le président de cette structure citoyenne dresse un bilan sombre de la situation sécuritaire dans l'Ituri. Au cours des deux dernières semaines, elle évoque des cas de tuerie, des kidnappings des civils, des incendies des maisons et des pillages de vaches. Le porte-parole de l'armée promet de se prononcer à ce sujet incessamment. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Dans un point de presse animé sur le mercredi à Bunia, la société civile de l'Ituri a passé en revue la situation sécuritaire, principalement dans le territoire du Rumu, situation caractérisée selon elle par une série de violations et d'exactions commises par des rebelles des ADF ainsi que de miliciens de la CODECO et de la FPIC. Il s'agit par exemple de l'assassinat par des rebelles des ADF de 30 civils dans les villages de Luna Samboko, Ichilemba et Tibomaki. Au total, ce sont 38 personnes personnes qui ont été tuées dans ces différentes attaques uniquement dans les territoires du Rumu. Plusieurs cas d'enlèvement des civils par des ADF ont également été enregistrés durant cette période, dont celui de 11 enfants âgés de 9 à 17 ans. À cette liste s'ajoute le pillage de plusieurs centaines de vaches. Parmi les recommandations à ce civil de l'Ituri demande au chef de l'État de renforcer en troupes et en équipement les militaires des FADC déployés au front. Pour les coordinateurs de cette structure citoyenne, la population avait placé son espoir en l'état de siège pour mettre fin à l'activisme de ce groupe armé qui, à son avis, continue à défier l'État congolais. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Actualité, Afrique monte.
Les forces françaises ont tué le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara. Un succès majeur, a annoncé le président Emmanuel Macron dans la nuit de mercredi à ce jeudi sur Twitter. En juin et juillet, Paris avait déjà annoncé la mort ou la capture de plusieurs cadres des hauts rangs du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara par la force française Barkhane et ses partenaires, ce dans le cadre de sa stratégie de cibler les dirigeants et les cadres des organisations djihadistes. De son côté, la ministre française des Armées, en saluant également un coup décisif contre ce groupe terroriste, dit-elle, indique, je cite, « Notre combat continue ». Fin de citation.
L'invité.
Nous sommes dans la province de la Tchopo. Déjà 377 cas de méningite enregistrés à Banalia depuis juillet dernier, dont 155 décès, ce avec un taux de létalité de 41,1% selon le décompte du 14 septembre. Pour organiser la riposte contre cette maladie très contagieuse et meurtrière, une forte délégation de l'Organisation mondiale de la santé OMS séjourne à Kisangani depuis mardi en provenance de Kinshasa et de Brazzaville. Elle doit être à Banalia ce jeudi. La délégation est conduite par le docteur André Bitafouda, coordonnateur régional chargé de la lutte contre la méningite en Afrique au bureau régional de l'OMS basé à Brazzaville. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Docteur André Bitafouda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé aujourd'hui à Kisangani à la tête d'une délégation de l'OMS. Quel est l'objet de votre mission à Kisangani?
Notre mission à Kisangani est d'apporter un soutien technique à l'équipe en place, à Kisangani, à l'aide de santé de Banalia et dans les aires de santé comme Panga et autres. Donc il y a une équipe qui sur le terrain vient renforcer l'appui à la riposte contre l'épidémie de méningite.
En quoi consiste concrètement ce renfort?
Nous sommes venus déjà avec des épidémiologistes, un communicateur et puis un logisticien, dont le rôle est de pouvoir renforcer les différentes stratégies de lutte, notamment le renforcement de la détection des cas, avec une organisation pour avoir les cas les plus à jour, les cas complets de toutes les aires de santé, y compris les environs. La deuxième chose, c'est de pouvoir renforcer et de superviser la prise en charge des patients, de s'assurer que, avec la communication du risque, que les populations soient informées et ne croient plus à la sorcellerie, mais croient plutôt que c'est une maladie qui se contamine et dont on peut avoir la solution en allant à l'hôpital. Également, de pouvoir préparer la vaccination qui va avoir lieu dans quelques semaines.
Est-ce que la population habitant cette entité, cette juridiction, peut pousser un ouf de soulagement? Qu'est-ce qu'elle peut attendre de vous?
On pense déjà que depuis quelques semaines que le traitement efficace a été mis en place et que la communication est faite et qu'on a réduit significativement le nombre de décès. Je pense que la population commence à être assez satisfaite, mais réellement, au-delà du soutien technique, on va essayer d'évaluer les besoins en termes d'équipement, en termes de moyens financiers et en termes de stratégie même. Et on pourra, avec tous les autres partenaires, apporter tout l'appui nécessaire, principalement l'appui de l'OMS. On va apporter des vaccins ainsi que l'organisation de la communication.
Et Dr André, il a été rapporté qu'il y a 330 cas et 150 ou plus de 150 décès. Ne voyez-vous pas que le taux de létalité est vraiment élevé? Que faire pour arrêter l'hécatombe?
Le taux de létalité est très élevé. C'est une épidémie qui est sévère parce qu'on a pratiquement 45% des patients qui sont malades qui décèdent, et ils décèdent dans les 24-48 heures. Mais il faut dire que depuis 3-4 semaines que le traitement est en marche, il y a eu une réduction. Avant, on était pratiquement sur 10 malades, 8 décédés. Or, depuis que le traitement a été mis en place, sur 10 malades, 1 décède. Donc, c'est lorsqu'on fait la moyenne de tous les cas d'avant et de maintenant qu'on se trouve à 45%. Mais on a noté de façon drastique une baisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les populations ne restent pas, parce qu'il y a encore certaines populations qui restent à la maison. Dès que vous ressentez la fièvre, il faut aller à l'hôpital. Parce que la fièvre, la raideur de la nuque, les céphalées, la fatigue peut faire penser à la méningite. Mais dès que vous ressentez la fièvre, allez directement à l'hôpital ou bien informer pour qu'on mette le traitement. Le traitement est très efficace et il est disponible. Dès que vous avez le traitement, dès le lendemain, vous vous sentez bien. Mais si vous n'avez pas le traitement, le lendemain, vous pouvez mourir et voir deux jours après.
Alors, docteur André, les patients sont en train d'être soignés. Que faire pour une solution efficace?
Déjà, il faut que la population soit protégée. C'est une maladie qui peut être évitée par la vaccination. Si les populations sont vaccinées, alors il n'y a pas de risque. Mais il faut dire que c'est le fait de vivre en promiscuité. Et dans cette zone, on a beaucoup de miniers qui travaillent, mais on ne peut pas éviter le travail aussi. Donc, il faut se protéger. Les mesures barrières actuellement contre le Covid permettent aussi d'éviter, parce que la maladie se transmet lorsqu'on parle à travers les gouttelettes de salive ou bien lorsque la poussière souffle et ça apporte la maladie. Donc, il faut l'hygiène, il faut porter son masque contre le Covid, mais aussi contre la méningite.
Est-ce que le vaccin est disponible?
Le vaccin est disponible. L'OMS pourra faire part venir le vaccin avec ses partenaires. Il sera gratuit.
Docteur André, merci.
C'est moi qui vous dis merci.
Notre invité, le coordonnateur régional chargé de la lutte contre la méningite en Afrique au bureau régional de l'OMS basé à Brazzaville, s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre attention.